Ralph Waldo Emerson, Trois essais, fichier 2, Amour. J'étais un joyau caché, mon rayon ardent me l'a révélé. Coran. Chaque promesse de l'âme a des accomplissements innombrables. Chacune de ces joies mûrit dans un nouvel espoir. La nature aux espoirs infinis, ondoyante et fatidique, anticipe déjà dans le premier sentiment de tendresse un bienfait qui perdra sa lueur individuelle dans la clarté générale. On est initié à cette félicité par une relation personnelle et tendre de 1 à 1, qui est l'enchantement de la vie humaine, qui, ainsi qu'un enthousiasme divin et passionné, s'empare de l'homme en un temps de sa vie et opère une révolution en son âme et en son corps, l'unit à sa race, l'engage aux relations privées et civiques, l'amène à de nouvelles sympathies avec la nature, rehausse le pouvoir des facultés, ouvre l'imagination, ajoute à son caractère des attributs héroïques et sacrés, établit le mariage et perpétue la société humaine. L'association naturelle du sentiment de l'amour avec l'ardeur de la jeunesse semble vouloir qu'on ne soit pas trop âgé afin de le peindre avec ses couleurs vives et que tous jeunes gens et jeunes filles confessent reconnaître la peinture fidèle de leur expérience palpitante. Les délicieuses fantaisies de jeunesse rejettent la moindre senteur de philosophie mûre, comme si elles devaient glacer de sa vieillesse et de son pédantisme leurs fleurs aux couleurs pourpres. Aussi, je sais que j'encours le blâme d'une dureté et d'un stoïcisme inutile de la part de ceux qui composent la législature et le parlement de l'amour. Mais de ces formidables censeurs, j'en appellerai à mes anciens, car il est à considérer que cette passion dont nous parlons, bien qu'elle commence chez les jeunes, n'abandonne pas les vieux, ou plutôt ne souffre pas que ses vrais serviteurs vieillissent, mais en fait participant, les vieillards, non moins que la tendre jeunesse, quoique d'une façon différente et plus noble, car c'est un feu qui jette ses premières étincelles dans le profond recoin d'un cœur solitaire, allumé lui-même par un rayon errant d'un autre cœur, s'embrase et s'étend jusqu'à ce qu'il réchauffe et couvre de ses rayons des multitudes d'hommes et de femmes, et le cœur universel de toutes choses, illuminant ainsi la nature et le monde entier de ses flammes généreuses. Il importe donc peu que nous tentions de décrire la passion à 20, 30 ou 80 ans. Celui qui la peint à la première période perdra de ses plus tardifs symptômes. Celui qui la peint à la dernière, de ses plus hâtifs. Seulement, espérons que par la patience et l'aide des muses, nous pourrons parvenir à cette vision intime de la loi, qui est une vérité jeune et charmante à jamais, si centrale qu'elle brillera aux yeux à quelque angle qu'on se place. Et la première condition est que nous ne nous attachions pas trop étroitement et minutieusement aux faits, mais que nous étudions le sentiment comme il se manifeste en espoir et non en détail, car chacun voit sa propre vie amorphe et défigurée, comme n'est pas la vie de l'homme à son imagination. Chacun voit sa propre expérience entachée d'erreurs, tandis que celle des autres semble idéale et pure. Laissez un homme retourner en pensée à ces relations délicieuses qui sont la beauté de sa vie et lui ont donné l'instruction et la nourriture les plus pures. Il tressaillira et gémira. Hélas, je ne sais pourquoi, mais des remords infinis remplissent d'amertume à l'âge mûr les souvenirs de joie naissante et enveloppent tout nom bien-aimé. Tout est ravissant intellectuellement comme vérité, mais tout est âpre à l'expérience. Les détails sont mélancoliques quand l'ensemble est gracieux et noble. Dans le monde actuel, ce laborieux empire du temps et de l'espace habille le souci, la maladie et la crainte. Au sentiment et à l'idéal est liée l'immortelle gaieté, la fleur de joie. Toutes les muses chantent alentour, mais la douleur est attachée au nom, aux personnes et aux intérêts d'hier et d'aujourd'hui. La forte inclination de la nature se trahit par la proportion que prend dans la conversation le thème de ces rapports uniques. Que souhaitons-nous davantage savoir d'une personne de valeur que la fin de son histoire d'amour? Quels livres sont en circulation chez le libraire? Comme ces romans d'amour nous enflamment quand l'histoire est racontée avec une étincelle de vérité et de naturel. Et qu'est-ce qui excite l'attention dans les relations de la vie comme un événement qui trahit de l'inclination entre deux personnes? Peut-être ne les avions-nous encore jamais vus et ne les reverrons-nous plus jamais. Mais nous les voyons échanger un regard lumineux ou trahir une émotion profonde. Et elles ne nous sont plus étrangères. Nous les comprenons et nous portons le plus vif intérêt au développement du roman. Tout homme aime l'amour. Les premières démonstrations de complaisance et de tendresse sont les fleurs les plus séduisantes de la nature. C'est l'aurore de la civilisation et de la grâce en l'inhabile rustaud. Le gamin du village taquine les petites filles à la sortie de l'école. Mais aujourd'hui, il accourt à l'entrée et rencontre une enfant gracieuse rangeant son petit sac. Il lui tient ses livres pour l'aider. Et à l'instant, il lui semble qu'elle s'éloigne infiniment et est un temple sacré. Parmi la foule de jeunes filles, il circule assez sans façon, mais une seule lui en impose. Et ses deux petits voisins qui se bousculaient tout à l'heure ont appris à respecter la personnalité l'un de l'autre. Ou, qui peut détourner ses yeux des manières engageantes, demi-artificieuses et demi-naïves, des écolières qui vont dans la campagne acheter un écheveau de soie ou une main de papier et parlent une demi-heure au sujet de rien, le garçon de magasin, au large visage et au bon naturel. Au village, ils sont sur un pied de parfaite égalité, ce que l'amour aime, et sans aucune coquetterie, la nature heureuse et affectionnée de la femme s'épanche en ce joli bavardage. Elle peut n'être pas jolie. Néanmoins, elle établit simplement entre elle et le bon garçon les rapports les plus agréables et confiants, avec son humour au sujet d'Edgar et de Jonas et d'Almira, et de qui était invité à la partie, et de qui dansait à l'école de danse, et de quand allait commencer l'école de chant, et d'autres riens sur lesquels on jase. Bientôt, ce garçon veut une femme, et il saura très véritablement et de tout son cœur où trouver une pure et douce compagne, sans aucun de ces risques tels que Milton déplore être attaché aux érudits et aux grands hommes. Il m'a été dit que dans quelques-uns de mes discours publics, ma vénération pour l'intellect m'a fait injustement battre froid aux relations personnelles. Mais maintenant, je recule presque devant le souvenir d'une telle accusation. Car les gens sont le royaume de l'amour, et le philosophe le plus froid ne peut pas faire le rapport de la dette d'une jeune âme errant ici-bas dans la nature au pouvoir de l'amour sans être tentée de rétracter tout dénigrement comme crime de lèse-majesté envers elle. Car encore que le divin ravissement descendant du ciel ne s'empare que des jeunes, et qu'il soit d'une beauté surpassant toute analyse et toute comparaison, nous mettant tout à fait hors de nous-mêmes, et que nous pouvons rarement avoir passé 30 ans, le souvenir de ces visions survit à tous les souvenirs, et est une couronne de fleurs sur les plus vieux fronts. Mais il se passe un fait étrange. Il peut sembler à plusieurs, en révisant leur expérience, qu'ils n'ont pas de plus belles pages dans le livre de leur vie que la délicieuse mémoire de certains événements où l'affection répandait sur le détail d'une circonstance accidentelle et insignifiante une magie surpassant la profonde attraction de sa propre vérité. En regardant en arrière, ils peuvent découvrir que différentes choses qui n'étaient pas le charme sont plus réelles à leur mémoire tâtonnante que le charme même qui les embaumait. Mais quelle que soit l'expérience dans les détails, nul n'oublia jamais la visitation de cette force en son cœur et son esprit qui créa toutes choses nouvelles, qui fut l'aube de la musique en lui, de la poésie et de l'art, qui faisait de la nature un rayonnement de clarté radieuse, du matin et du soir des enchantements variés, quand le simple son d'une voix pouvait faire bondir le cœur, et que les circonstances les plus insignifiantes, associées à certaines formes gracieuses, ambrent le souvenir, quand il devenait tout yeux en certaines présences, et tout souvenir en son absence. Quand la jeunesse se met à guetter aux fenêtres et devient studieuse d'un gant, d'un voile, d'un ruban ou des roues d'une voiture, quand nul espace n'est trop solitaire et nul trop silencieux pour celui qui a une société plus abondante et une conversation plus douce avec ses nouvelles pensées que nul ancien ami, fût-ce le meilleur et le plus pur, ne peut lui donner. Car les silhouettes, les mouvements et les mots de l'objet bien-aimé ne sont pas comme les autres images écrites en nous, mais, ainsi que le disait Plutarque, émaillées au feu et font la méditation de minuit. Tu n'es pas loin étant loin, en quelque lieu que tu sois. Tu laisses en lui tes yeux attentifs et ton cœur aimant. Au midi et au soir de la vie, nous palpitons encore à la mémoire de jours où le bonheur n'était pas assez heureux, mais devait être assaisonné de douleur et de crainte, car il a deviné le secret, celui qui a dit de l'amour, toutes les autres joies ne valent pas ces peines. Et, quand le jour n'était pas assez long, mais que la nuit même devait se consumer en poignants souvenirs, que la tête brûlait sur l'oreiller dans l'analyse du sentiment généreux, quand le clair de lune était une exaltation ravissante, les étoiles un message et les fleurs des initiales entrelacées, quand l'air chantait, quand toute occupation semblait une impertinence, et les hommes et les femmes allant et venant dans la rue de simple magie. La passion rebâtit le monde à son hôte. Elle rend toutes choses vivantes et significatives. La nature devient consciente. Le chant de tous les oiseaux dans les branches lui va maintenant au cœur et à l'âme. Les notes sont presque articulées. Les nuages ont de l'expression comme ils fixent les yeux. La forêt d'arbres, l'herbe qui s'agite, et les fleurs commençant à paraître sont devenues intelligentes. Et il craint presque de leur confier le secret qu'elles semblent l'inviter à trahir. Cependant, la nature caresse et sympathise. Dans la verte solitude, il a un Eau plus doux qu'auprès des hommes, sources et bois sans chemin frayé, endroits que la passion pâle aime, sentiers éclairés par la lune quand tous les oiseaux sont couchés, hormis la chauve-souris et la chouette, une cloche de minuit, un grognement furtif, voilà les harmonies desquelles nous vivons. Voyez dans ces bois le fou magnifique. Il a des visions suaves et chantantes. Il s'élève. Il est deux fois un homme. Sa démarche est royale. Il parle aux sentiers solitaires. Il accoste les herbes et les arbres. Il sent la vie de la violette, du trèfle et du lys dans ses veines. Et il cause avec le ruisseau qui lui mouille les pieds. Le feu, qui a développé sa perception de la beauté, lui a fait aimer la musique et la poésie. C'est un fait souvent observé que des hommes ont écrit de bons vers sous l'inspiration de l'amour, qui ne le pouvait dans aucune autre circonstance. La même force étend sa flamme sur toute sa nature. Elle épanouit le sentiment, elle adoucit l'intraitable et donne du cœur aux timides. Aux plus faibles et aux plus méprisables, elle inspire le courage de défier le monde s'il a seulement l'appui de l'objet bien-aimé. En le donnant à un autre, elle le rend à lui-même. C'est un homme nouveau qui a des perceptions nouvelles, un but nouveau et plus intense, et une religieuse solennité de caractère et d'intention. Il n'appartient plus à ses familles et à la société. Il est quelque chose. Il est quelqu'un. Il est une âme. Et maintenant, examinons d'un peu plus près la nature de cette influence qui est si puissante sur la jeunesse. La beauté dont nous célébrons en ce moment la révélation aux hommes, bienvenue comme le soleil partout où il lui plaît de briller, qui rend fière d'elle et de soi-même, paraît se suffire à elle-même. Le jeune homme ne peut pas s'imaginer celle qu'il aime, pauvre et solitaire, mais telle qu'un arbre en fleurs, aussi délicate, aussi printanière, d'un charme qui est une société, et elle lui apprend pourquoi la beauté fut représentée avec des amours et des grâces veillant sur ses pas. Son existence enrichit le monde. Bien qu'elle détourne son attention de toutes les autres personnes qui lui semblent insignifiantes, elle le dédommage en se faisant quelque chose d'impersonnel, de grand, d'universel. De sorte que la jeune fille représente pour lui le symbole des vertus et de toutes les choses qui sont belles. Voilà pourquoi il ne voit jamais choses les plus excellentes qui ont de ressemblance entre elles et les siens ou d'autres. Ses amis lui en trouvent avec sa mère, ses sœurs ou des gens qui ne lui sont pas parents. Lui n'en voit aucune, si ce n'est au soir d'été et au matin transparent, aux arcs-en-ciel et au chant des oiseaux. Les anciens appelaient la beauté la fleur de vertu. Comment analyser le charme indicible qui brille d'un visage sur l'autre? Nous sommes touchés par des émotions de tendresse et de joie, mais nous ne pouvons pas découvrir d'où cette émotion délicate, ce rayon errant. L'imagination se refuse à ne l'attribuer qu'à la forme visible. Non plus ne peut-on l'attribuer à aucun rapport d'amitié ou d'amour connu et décrit dans la société, mais il me semble à une sphère tout autre et inaccessible, à des rapports d'une délicatesse et d'une suavité transcendantes, à ce que les roses et les violettes augurent à demi-mot. nous ne pouvons pas approcher la beauté. Sa nature est comme l'éclat opalin changeant d'un plumage. Elle voltige et s'évanouit. En cela, elle ressemble au tout, ce caractère chatoyant, défiant toutes les tentations d'appropriation et d'usage. Jean-Paul Richter exprimait-il autre chose quand il disait à la musique: Va-t'en, va-t'en, tu me parles de choses que je n'ai pas trouvées durant toute ma vie et que je ne trouverai pas. La même fluidité s'observe dans toutes les œuvres de l'art plastique. La statue est belle alors qu'elle commence à être incompréhensible, en dehors de la critique, et ne peut plus se définir par le compas et la mesure, mais demande une imagination active qui trouve l'acte qu'elle représente. Le dieu ou héros du sculpteur est toujours représenté dans une transition entre ce qui est à la portée des sens et ce qui ne l'est pas. Alors seulement, il cesse d'être en pierre. La même chose se remarque en peinture. Et en poésie, le succès n'est pas atteint quand elle berce et satisfait, mais quand elle étonne et nous embrase en nous inspirant de nouveaux efforts vers l'inaccessible. Touchant quoi, Landor se demande si cela ne se rattache pas à quelque plus pur état de sensation et d'existence. Telle une beauté personnelle charme et est elle-même alors seulement qu'elle ne nous laisse satisfaits d'aucune conclusion. Qu'elle devient une histoire qui ne peut se finir, qu'elle suggère des lueurs et des visions, et non des satisfactions terrestres, qu'elle fait sentir au contemplateur son indignité, qu'il ne peut s'y reconnaître aucun droit, fût-il César, qu'il ne s'y sent pas plus de droit qu'au firmament et aux splendeurs d'un soleil couchant. Ici, la voix s'est élevée. Si je vous aime, que vous importe? Nous parlons ainsi parce que nous sentons que ce que nous aimons n'est pas en votre pouvoir, mais au-dessus. Ce n'est pas vous, mais votre splendeur. C'est ce que vous ne savez pas et ne pouvez savoir. Cela s'accorde avec cette haute philosophie de la beauté dans laquelle se délectaient les anciens, car ils disaient que l'âme, ici-bas revêtue d'un corps, allait errant çà et là, à la recherche de cet autre monde à elle, hors duquel elle vint dans le nôtre, mais était bientôt stupéfiée par la lumière du soleil naturel et incapable de voir autre chose que les objets de ce monde, qui ne sont que l'ombre des réalités. Voilà pourquoi la divinité présente à l'âme la gloire de la jeunesse, afin qu'elle tire parti de sa beauté pour l'aider à se ressouvenir des biens et des beautés célestes. Et l'homme, voyant ainsi une femme, court à elle et trouve la plus sainte joie à contempler sa beauté, ses mouvements et son intelligence, parce que cela lui suggère ce que cette beauté recèle et ce qui en est la cause. Si toutefois, pour s'être trop attachée aux objets matériels, l'âme est stupide et place sa satisfaction dans la beauté visible, elle ne récolte rien que de la tristesse, la beauté terrestre étant impuissante à remplir sa promesse. Mais, si acceptant l'insinuation de ses visions et suggestions, l'âme passe à travers le corps, s'abandonne à l'admiration ardente des traits du caractère, et que les jeunes gens se contemplent l'un l'autre en leurs discours et leurs actions, alors ils entrent dans le vrai palais de la beauté, en embrasant leur amour de plus en plus, et, par cet amour, éteignant l'affection égoïste comme le soleil éteint le feu en brillant sur l'art, ils deviennent purs et bénis, dans le tête-à-tête avec ce qui est en soi excellent, magnanime, doux et vertueux, ils arrivent à un plus véhément amour de ses noblesses et à une plus rapide compréhension. Alors, en les aimant chez quelqu'un, ils en viennent à les aimer chez tous. Et ainsi, une seule âme est la porte par laquelle ils entrent dans la société de toutes les âmes vraies et pures. Dans l'intimité, ils arrivent à voir plus clairement chaque altération, chaque tache que leur beauté a contractée en ce monde, et savent se les signaler avec une joie mutuelle de pouvoir maintenant, sans offense, se désigner l'un à l'autre leurs défauts et leurs obstacles, et s'aider, se conforter l'un l'autre en se guérissant. Contemplant dans maintes âmes les traits de la beauté divine et séparant dans chacune ce qui est divin des souillures qu'elle a contractées en ce monde, ils s'élèvent au plus complet ravissement, à l'amour et à la connaissance de la divinité par les degrés de cette échelle d'âmes créées. Les sages de tous les temps nous ont parlé tant soit peu ainsi de l'amour. La doctrine n'est ni vieille ni jeune. Si Platon, Plutarque et Apulée l'ont enseigné, Pétrarque, Angelo et Milton aussi. Il attend une révélation nouvelle en opposition et en blâme contre cette souterraine prudence qui préside au mariage avec des mots adoptés dans le grand monde, pendant qu'un œil rôde autour du cellier, de sorte que ses plus graves discours ont une odeur de garde-manger. Plus triste encore quand ce matérialisme intervient dans l'éducation des femmes et flétrit l'espérance et la tendresse de la nature humaine, enseignant que le mariage ne signifie rien que l'économie d'une ménagère et que la vie de la femme n'a pas d'autre but. Mais ce rêve d'amour, encore que ravissant, n'est qu'une scène de notre spectacle. L'âme, dans sa marche du dedans au dehors, étend ses cercles à l'infini, comme un caillou lancé dans un étang ou la clarté venant d'un orbe. Les rayons de l'âme tombent d'abord sur les choses les plus proches, sur chaque objet et sur chaque rien, sur les domestiques, sur la maison et la cour et les passants, sur le cercle des amis de la famille, sur la politique, la géographie et l'histoire. Mais les choses vont toujours se groupant suivant des lois plus élevées ou plus intérieures. L'entourage, les dimensions, les quantités, les habitudes, les personnes perdent peu à peu leur pouvoir sur nous. La cause et l'effet, les vraies affinités, l'ardent espoir d'une harmonie entre l'âme et les événements, l'instinct progressif créateur d'idées prédomine plus tard et un pas en arrière du plus élevé au moins élevé est impossible. Ainsi, même l'amour qui est la déification des personnes doit devenir plus impersonnel chaque jour. Il ne le donne pas tout de suite à entendre. Les jeunes gens qui se lancent des regards au travers d'appartements foulés, les yeux si pleins d'intelligence mutuelle, pensent peu aux fruits précieux à venir de ce stimulant nouveau et extérieur. Dans la végétation, l'écorce et les bourgeons reçoivent d'abord les rayons du soleil. Des coups d'œil échangés, ils en viennent aux actes de courtoisie, de galanterie, puis à la passion ardente, à l'engagement de la foi et au mariage. La passion regarde son objet comme une parfaite unité. L'âme est unie au corps et le corps à l'âme. Son sang pur et éloquent parlait à ses joues si distinctement qu'on eût presque dit qu'il pensait. Roméo mort devrait être taillé en petites étoiles pour embellir les cieux. La vie de ce couple n'a pas d'autre but ne demande pas autre chose que Juliette, que Roméo. La nuit, le jour, les études, les talents, les royaumes, la religion sont contenus dans cette beauté remplie d'âme, dans cette âme qui est toute beauté. Quand on s'aime, on vit de tendresse, d'aveu, de comparaison. Seul, on se console avec l'image de l'autre. Cet autre voit-il la même étoile? Est-il touché par le même nuage? Lit-il le même livre? Sent-il la même émotion qui en ce moment me charme? On éprouve et on mesure son amour et, additionnant les avantages, les amis, les opportunités, les convenances, on exulte en découvrant que volontairement, joyeusement, on donnerait tout en rançon pour la tête charmante et bien-aimée dont pas un cheveu ne sera touché. Mais en ces choses, la plupart des hommes ne sont que des enfants. Le danger, la tristesse et la douleur leur arrivent comme à tous. L'amour prie. Il traite avec l'éternel pouvoir en faveur du cher compagnon. Une telle union qui ajoute un nouveau prix à chaque atome dans la nature, car elle métamorphose chaque fil d'un bout à l'autre du tissu des événements en un rayon d'or et baigne l'âme dans un nouvel et plus doux élément, une telle union n'est cependant qu'un état temporaire. Ce n'est pas toujours que les fleurs, les perles, la poésie, les protestations, ni même le chez-soi dans un autre cœur, peuvent satisfaire l'âme solennelle revêtue de poussière. Elle finit par s'éveiller de ses tendresses comme d'un jeu, revêt le harnais et aspire à des buts vastes et universels. L'âme qui est dans l'âme de chacun, implorant une parfaite béatitude, découvre des écarts, des défauts et de la disproportion dans la conduite de l'autre. De là viennent la surprise, l'accusation et la douleur. Cependant, ce qui les avait attirés l'un à l'autre étaient des expressions de grâce et de vertu. Et ces vertus sont là, encore qu'éclipsées. Elles apparaissent et réapparaissent et continuent à attirer. Mais l'attention change, abandonne le signe et s'attache à la substance. Cela répare l'affection blessée. Et la vie, comme elle s'écoule, se trouve être un jeu de permutation et de combinaison de toutes les situations possibles de chacun pour employer toutes les ressources l'un de l'autre et faire connaître à chacun la force et la faiblesse de l'autre. Car c'est la nature et le but de cette relation qu'ils se représentent la race humaine l'un à l'autre. Tout ce qui est dans le monde, qui est ou devrait être connu, est habilement façonné dans la texture de l'homme, de la femme. La personne que l'amour nous révèle, comme la manne, a le goût de toute chose en elle. Le globe roule, l'état des choses varie d'heure en heure. Les anges qui habitent ce temps, qu'on nomme le corps, apparaissent aux fenêtres, et aussi les gnomes et les vices. Toutes les vertus concourent. S'il y a vertu, tous les vices sont connus comme tels. Ils se confessent et s'enfuient. Les sentiments qui furent une fois brûlants sont calmés par le temps dans le cœur de chacun. Perdant en violence ce qu'ils gagnent en étendue, deviennent une entente achevée. Ils se confient l'un à l'autre, sans plainte, les bons offices que l'homme et la femme sont distinctement à remplir en temps, et échangent la passion, qui autrefois ne pouvait perdre de vue son objet, contre un appui joyeux et libre des desseins l'un de l'autre, dans la présence ou dans l'absence. Enfin, ils découvrent que tout ce qui d'abord les attira, ces traits une fois sacrés, ce magique jeu de charme, avait une suite à venir. comme l'échafaudage à l'aide duquel fut bâtie la maison, et la purification de l'intelligence et du cœur, d'année en année, est le vrai mariage dont il n'avait nullement conscience. Considérant ces buts avec lesquels deux personnes, un homme et une femme, si diversement et si corrélativement inspirées, sont enfermées dans une maison, pour passer dans l'union conjugale 40 ou 50 années, je ne m'étonne pas de l'emphase avec laquelle le cœur prédit cette crise dès la tendre enfance, de la prodigue beauté que l'instinct fait jeter sur l'arceau nuptial, ni de voir la nature, l'intelligence et l'art rivaliser dans les présents et la mélodie qu'ils apportent à l'épithalame. Ainsi, nous nous préparons à un amour qui ne connaît ni sexe, ni personne, ni partialité, mais qui cherche la vertu et la sagesse partout en vue de leur accroissement. Nous sommes par nature des observateurs et par ce moyen des élèves. C'est notre état permanent. Mais nous sommes souvent amenés à sentir que nos affections sont seulement des tentes pour une nuit. Quoique lentement et avec peine, les objets de l'affection changent, ainsi que les objets de la pensée. Il y a des moments où les affections animent et absorbent l'homme et font dépendre son bonheur d'une plusieurs personnes. Mais tout à l'heure, l'esprit se remet, sa voûte arquée, où lui la voit lactée aux clartés immuables, et les amours et les craintes qui glissaient au-dessus de nous comme des nuages doivent perdre leur caractère limité et se fondre avec Dieu pour atteindre leur perfection. Mais il ne faut pas craindre que nous puissions rien perdre dans le voyage de l'âme. On peut se fier à l'âme jusqu'à la fin. Ce qui est aussi beau et attrayant que ces relations ne doit être succédé et supplanté que par ce qui est plus beau, et ainsi de suite à jamais.